Si on n'est que quatre, tu peux peut-être t'asseoir avec nous, non? Si,
Ouais.
si y a un siège.
Non, non, c'est un avis.
Il est là.
Est-ce que... Mais c'est marrant comment tu m'as regardé.
Est-ce qu'on passe
Il était là, il était en train de se lever, il avait les yeux. Donc, chers auditeurs, si vous existez derrière vos posts internet, Philippe Langlois m'a regardé d'un regard me demandant l'autorisation de toute chose.
Moi, tu sais, je suis très poli en général.
Mais c'est génial.
Hein. Marc, tu peux rapprocher ta chaise basse, c'est super proche.
Mais tu peux rapprocher ta chaise longue aussi, hein, tu sais.
Ah, puis on peut tout fermer aussi. Bah non, on reste ouvert, mais.
On va laisser la porte verte, mais on va fermer le rideau.
Putain, ça, c'est vrai que ça caille un peu.
Ouais. Tu veux une couverture
Il y a de l'herbe. Non, pour l'instant, ça va, je suis couvert, moi. C'est après. Mais je suis pas étonné que tu sois malade. Parce que c'est dans le courant
ouais.
d'air.
On n'expliquera pas forcément toutes les causes pourquoi je suis malade. Hein. Le froid du lieu y est pour beaucoup.
Non, mais c'est la dernière fois que j'étais à la porte. Je tenais la porte. Donc voilà. Donc nous sommes passés déjà par le côté technique, on va dire.
Oui.
On attend que Philippe soit installé, puis j'introduis
oui.
Très brièvement.
Alors, donc là, si je comprends, ce qu'on est en train de dire est en ligne, déjà
voilà, ouais, exactement.
Déjà.
Oui.
Bah, en fait, le principe est assez simple, c'est que déjà nous avons l'émission de deux. On peut aussi avoir ce qui constitue l'émission, donc ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant l'émission. Et puis maintenant, le gros silence.
Oui. Non, pas vraiment, puisqu'on entend les cloches qui tiennent lieu d'indicatif.
Qui prouve qu'il est bien 19h et que nous sommes ponctuels. Hein.
Et en live.
Et en live. Hein.
Je pense que les micros prennent...
Ah oui, ils prennent.
Sans aucun problème.
Non. Cher auditeur, si vous entendez les cloches...
Frappez trois fois.
Voilà.
En tout cas, c'est une très belle introduction au thème qu'on aborde, qui est... Les rapports du bruit au son.
Donc, dans le cadre de Signal sur bruit, on a pensé à toi pour l'aspect électroacoustique et non pas dans la même visée qu'hier soir, qui était introduit comme un set électroacoustique, qui était électroacoustique techniquement, mais peut-être moins au niveau de ce qui est entendu comme électroacoustique. Et peut-être un autre rapport justement au son. Nous t'étais un rapport sensitif expérimental qui était plus test des haut-parleurs d'une certaine manière, test continu partagé, et toi qui es plus dans les haut-parleurs ont peut-être un rapport plus transparent et plus masqué. Il s'agit de proposer des compositions sur un support fixé, donc
oui.
C'est cet aspect de ta pratique électroacoustique de composition et
oui.
Ton rapport au son dont on va parler ce soir.
Ben oui, moi j'avais retenu dans ce qu'on m'avait demandé les rapports du bruit au son, mais bien entendu le rapport du son à la musique aussi est quelque chose d'important dans ma vie. Et j'ai préparé des choses comme ça, parce que c'est une occasion de réfléchir, je ne les ai pas structurées, c'est une espèce de causerie autour d'un micro, je compte un peu sur vous pour que ça prenne plus l'allure d'une conversation. Mais pour commencer, peut-être, la première chose qui m'a sauté à l'esprit quand vous m'avez demandé de venir, c'est que le mot bruit, je me suis dit, le mot bruit, c'est un terme que je ne prononce pratiquement jamais. Sauf depuis que vous m'avez demandé, puisque ça en fait partie. Et je me suis posé cette question comme ça, c'était une manière de démarrer. Alors, c'est pas que ce soit sale pour moi. C'est pas qu'on soit passé du côté du son comme quelque chose qui évite le bruit, mais je me suis rendu compte que peut-être ce dont on pourrait parler, c'est que je me posais pas trop la question et du bruit et du son, mais que je vivais la manière dont se manifeste plutôt le rapport entre le bruit et le son. Même si je prononce jamais le terme, c'est plutôt les activités par la façon dont ça manifeste. Et pas le bruit d'un côté et pas le son de l'autre, ce que je trouve d'intéressant dans notre pratique de musicien, de compositeur et d'enseignant, ou dans le monde de la communication, dans notre cas, c'est surtout le trajet qui va de l'un à l'autre, qui est prépondérant pour moi. Donc je vous propose de parler de ça,
ça
en tout cas.
Ça tombe bien parce que pour le coup, on parle pas juste de bruit, on amène souvent la partie bruit. Oui. Il s'agit bien d'un rapport entre oui, le oui. signal et le bruit.
Oui.
Ça veut pas dire qu'il y en a pas un qui serait bruit et l'autre qui serait signal.
Oui.
Le bruit devient signal, le signal devient bruit. Enfin, c'est des deux,
voilà.
c'est ce rapport.
Hein. Alors, même si vous voulez, pour commencer, avant vos questions, que je définisse tout de même ce qui est le bruit pour moi et ce qui est le son. Hein. Mais je répète, c'est plutôt la dynamique entre les deux qui m'intéresse. Hein. Alors, par bruit, en général, la signification courante, c'est ce qui gêne. Si on prend une approche d'acousticien, le bruit, c'est tout sauf les sons harmoniques des instruments. Pourtant, n'importe quel piano, n'importe quelle flûte, il s'agit bien de ces instruments-là, hein, plutôt classiques si vous voulez, hein, contiennent du bruit, parce qu'on ne peut pas taper, frotter, souffler sans que le son au sens harmonique du terme ne naisse du bruit. C'est ce que je trouve d'ailleurs fantastique, moi. C'est-à-dire le fait que dans une percussion ou dans un souffle qui est du bruit, on ait fabriqué des instruments qui, du bruit, fassent naître du temps, de l'énergie. C'est-à-dire, hop, on donne une percussion dans un temps très court. Et moi, qui, à un certain âge, je suis encore fasciné par le fait que le temps s'écoule et que de cette énergie qu'on apporte au départ, il y ait du son sur une durée. Voilà. Donc, certains acousticiens font cette différence entre bruit et son. Même si il y a des instruments comme des percussions et autres qui sont constitués de bruit, même si en chantant toutes les consonnes sont du bruit, alors que les voyelles, L, A, E, I, O, U, c'est ce que les acousticiens appellent son. Voilà, dans ce domaine-là, c'est comme ça. Mais déjà, on voit apparaître ce qui est propre et ce qui n'est pas propre, comme si ce qui était appelé son, c'était propre ou approprié, et bruit, ce qui est vraiment gênant. Alors, il y a une autre approche qui est acousticienne. C'est le titre de votre série. Et je pense que c'est bien qu'on en soit arrivé là. C'est le rapport signal sur bruit, qui a une autre signification, mais qui, en gros, veut dire à peu près la même chose. C'est-à-dire, on se préoccupe d'électroacoustique au sens matériel du terme et de haute fidélité. Donc, le signal, c'est ce qui est le plus fidèle possible, sans rentrer dans le détail, à un événement existant qu'on enregistre, par exemple. Et puis, on sait que ça se transforme en électricité. Et si cette électricité, comme dans la vidéo ou ailleurs, hein, une fois qu'on a transformé des énergies comme ça dans le milieu aérien, ambiant, en électricité, c'est tout ce qui vient perturber le signal, les scories, le bruit de fond, la ronflette et des choses comme ça. Et évidemment, pour un électroacousticien, le rapport signal sur bruit, c'est d'être le plus fidèle possible au signal originel. Voilà, c'est encore un truc. Mais la communauté, déjà, entre ces deux définitions, c'est que le bruit, c'est ce qui gêne, c'est ce qu'il ne faut pas avoir, quoi, voilà. Hein. Et pour moi, musicien, c'est un terme que j'utilise pratiquement jamais tout seul, isolé, parce que dans l'usage courant, on travaille avec des sons, au studio, etc., etc., et que le bruit, ça indique des comportements. Voilà ce que j'aimerais surtout dire. Pour moi, un musicien a déjà des comportements avec des corps sonores, ou etc., qui sont d'ordre relationnel. Voilà où je veux en venir. C'est-à-dire que le bruit, c'est ce qui gêne dans la vie courante. Par exemple, quelqu'un qui joue de la musique, et qu'on appelle du son. Si vous êtes en train de faire autre chose et que ça fait un certain volume et que ça vous gêne pour parler, encore une fois, c'est ce qui gêne et ça devient bruit. Pour moi, musicien, c'est un comportement, c'est-à-dire bruit, c'est la chose avec laquelle je n'ai pas de relation. Je prends un corps sonore, quelque chose, on dit souvent, regarde ce qu'il me fait, il me gêne. Voilà, l'ensemble de bruit, ça veut dire pour moi que je n'ai pas de relation avec le corps sonore. Vous voyez comment ça me berlificoter avec les bruits, avec les sons. et c'est vachement important, hein, c'est-à-dire qu'on peut rester comme ça, avec des oreilles, avec une écoute, et rester avec l'environnement sonore comme si on n'avait pas de relation, on passe. C'est-à-dire que mine de rien, si on n'est pas conscient, on attribue un statut d'objet à ce corps sonore, et du même coup, on s'attribue à soi-même un statut d'objet de la même façon. Il n'y a pas de rapport, on ne s'approche pas. Il gêne, il est là, voilà, on dit « regardez ce qu'il me fait », quoi, on passe. Tandis qu'un musicien, lui, ça devient son, parce qu'il s'approche de l'objet, il écoute, il devient l'état potentiel. C'est plus du tout ce qui gêne. Hein. C'est ce qui m'importe. Et là où je utilise les quelques mots que j'utilise au départ, il y a déjà une relation possible. C'est pas rien. C'est que non seulement il y a une relation possible avec le corps qui fait le son, mais du même coup, puisqu'on a des oreilles et qui fait du son, il y a des relations qui vont se faire entre ce corps sonore-là et un autre. Et donc, on est déjà à l'origine de la musique. Si l'être humain qui a des oreilles et qui lui-même sait faire des sons se retrouve avec un environnement où il y a du son qu'il ne rejette pas, qui n'est pas indifférent, qui n'est pas étranger, alors pour moi, il y a déjà un passage du bruit au son qui est un trajet qui se repose tous les jours. Même si je prononce, comme je vous le dis, pas le mot bruit, en tout cas, le trajet qui va du bruit au son, de l'indifférence, de l'état d'objet à l'état de sujet, c'est quelque chose qui a animé toute ma vie, d'une certaine façon. Déjà pour la pédagogie, parce qu'un enfant ne naît pas au son comme ça. Et d'une certaine façon, je me distingue un peu du reste du monde pédagogique, hein, où il y a souvent des conférences et des tables rondes qui s'appellent « Du son à la musique ». Or, je trouve que on ne peut pas faire l'économie du rapport du bruit au son, qui est un sacré trajet initiatique vachement important. Et même si je ne prononce pas le terme, il se répète à chaque fois que je fais de la musique, d'une certaine façon. Hein. Voilà. Moi, en tout cas, une première des choses que je voulais poser avec vous, si vous voulez, c'est pas la définition du mot bruit, la définition, je l'ai fait un petit peu, mais ce qui anime et ce qui est dynamique dans cette histoire, c'est le trajet entre les deux, quoi, qui est pas donné. Et voilà, je vous propose de parler un peu de ça. Moi, en tout cas, ça a eu des incidences considérables dans toute ma vie de compositeur, dans mes comportements quotidiens, puisque je vis comme un musicien. Et pas uniquement lorsque je fais de la musique, mais tous les jours. Et puis, comme j'ai fait beaucoup de pédagogie, comme vous le savez, avec des tout-petits-enfants d'école maternelle, à l'école primaire, avec des compositeurs aussi, bien sûr que je me suis posé ces questions, sachant que je fais partie de cette génération où j'ai appris la musique classique. On parlera de ça aussi, si vous voulez. Hein, et où le passage du bruit au son ne se fait pas ni par la réflexion, ni comme ça. Les instruments sont faits pour être des sons. La voix, etc., on a des choses à répéter. Et au fond, on nous apprend à faire du son sans se poser le passage du bruit au son. Ça se fait par l'exercice, ça se fait par la discipline, ça se fait par un maître qui est là devant, etc. Ça ne garantit absolument pas que le trajet se fasse. Hein. Mais au fond, puisqu'il y a déjà des instruments qui sont faits pour ça et qui supposent que le son est déjà quelque chose d'abstrait, on ne se pose pas la question de manière consciente. Et moi, du coup, comme je fais partie de cette génération où j'ai une culture classique et que je suis arrivé à la musique électroacoustique au moment où elle commençait, à la fin des années 60, à être enseigné, pour enseigner moi-même, j'ai eu à me poser évidemment ces questions-là. Et on n'apprend pas la musique électroacoustique qui fait la création comme on apprend un instrument. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je dis que je parle un peu beaucoup, mais... Mais je pensais que ce serait intéressant d'introduire un petit peu toute la thématique qu'on peut aborder pendant cette séance, si vous voulez. Il n'y a pas que ça. Alors, je ne sais pas, je vous écoute si vous aviez des questions.
Si, il y a des questions, et pour le coup, ça a brassé tellement large. Enfin, non, pas tellement large.
Je m'étais promis de ne pas être trop pédago, je suis enseignant, excusez-moi, je présente mes excuses à tout le monde.
Cher auditeur.
Mais, c'est une façon d'introduire la séance.
En fait, si, voilà, c'est la question, parce que moi, c'est après une question de parcours propre, comment toi t'es arrivé. Comment tu as eu connaissance de la musique concrète, et quel moment tu as pris conscience de ce passage du bruit au son?
Et moi, ça s'est fait très vite par la voix, tout petit. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, et il y a quelqu'un qui m'a fait chanter en 3 secondes. J'ai eu l'impression de sortir ma voix. Dans le son, là, on va déjà très loin. Hein. J'ai eu l'impression de vivre très très vite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté spirituel. Je vais pas être trop sérieux au micro. C'est-à-dire que dans les sons, il y a une dimension physique dont on va parler, hein, à laquelle je tiens beaucoup, que je néglige pas du tout. Moi, j'ai vraiment besoin de quelque chose de très physique. Il se pose la question de sublimer cette question du physique pour aller du côté de l'esprit, c'est-à-dire du côté des relations. Alors, il y a quelque chose d'important dans la mesure où on est obligé de produire les sons soi-même avec sa propre voix et de répéter des choses qui existent. Et on m'a mis très très vite en contact avec du répertoire assez difficile et très abstrait, comme du chant grégorien, par chez les religieux, par du Mozart, par des chants de la Renaissance, etc. On est parlé par le dos de la cuillère, ça, c'est allé très très vite du côté des choses, un peu à laquelle j'ai prouvé du plaisir aussi. Hein. Mais ce rapport du physique aux relations, voilà. Alors, ce côté des relations dont je viens de parler, moi, il me paraît important. C'est-à-dire que si on n'accepte pas de relations avec les corps sonores, ça reste un effet du bruit. Et à mon avis, ce qui fait son, c'est que, surtout en musique concrète, c'est qu'il y a une remise en question fondamentale de tous ces sons qui ont déjà été préétablis, préchoisis par l'histoire et qu'on apprend lorsqu'on est enfant. Comme le dit Schaeffer, j'ai retrouvé un petit bout d'émission, si on a le temps, je la ferai passer. Tout à l'heure, du retour aux sources, hein, du retour au domaine sonore. Et pour moi, ces sons-là ont deux significations. Je poserai tout à l'heure la question du sens qu'a le domaine sonore pour l'être humain, en termes pas trop compliqués, si vous voulez. C'est-à-dire que pour moi, les sons du domaine sonore, qu'ils soient des sons vocaux, au sens très large, hein, c'est-à-dire chanter, parler pour ce qu'on connaît, mais aussi faire des sons qu'on appelle bizarres, hein, de la phonation, que l'histoire, les poètes sonores, etc., ont largement utilisé, les techniques vocales extra-européennes aussi beaucoup, en deux significations, c'est-à-dire le sens du domaine sonore tel qu'il se présente à nos oreilles. Il y aura un ruisseau, c'est un ruisseau, un hélicoptère, c'est un hélicoptère, de la voix, c'est de la voix. Ça a déjà un sens propre. Tous les sons qui nous intéressent ont une signification particulière. Alors, déjà, reconnaître ça, c'est déjà pas mal. C'est essayer de se situer en tant qu'être humain par rapport à un domaine très très large qui inclut la voix, les corps sonores, instrumentaux, la vie sociale, ce qu'on appelle la nature. J'aime pas trop parce qu'on a l'air d'exclure l'être humain de la nature, on en fait partie. Tous les sons de notre patrimoine culturel, la poésie, etc., tous les sons artificiels qui arrivent depuis le synthétiseur et puis les recherches par ordinateur, etc., on a à sa disposition tout ça. Mais chaque son, à l'origine, à son propre univers, sa propre signification, et on est là-devant. Voilà. Mais l'autre chose, c'est que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des qualités. Tous les sons peuvent être décrits par un langage commun, qui est, ils sont longs, ils sont courts, ils sont aigus, ils sont graves, ils sont épais, ils sont... Schaeffer a travaillé sur un solfège de l'objet sonore qui fait 600 pages et qui décrit la typomorphologie des sons en termes très très savants. Mais après tout, ce vocabulaire, moi j'ai eu à le transmettre de manière très pratique à des gosses. C'est très proche de l'origine tactile, le lisse, le granuleux, vous voyez des choses comme ça qui sont très très proches même du contact physique avec lequel on fait les sons. Et sitôt qu'on comprend ça, qu'on passe du bruit au son, c'est-à-dire qu'on commence à écouter leur qualité, comme on dit, il est blanc, il est bleu, il est gros, il est mince, il est épais, etc. C'est quasiment le même vocabulaire pour les sons. Si je peux faire une petite parenthèse là, il m'arrive de travailler avec des enfants, je me souviens, de l'école primaire, et je leur demandais, mais qu'est-ce qui fait que toi, vous reconnaissez l'un de l'autre et que vous pensez que vous êtes distinct? Puis il me prenait pour un vieux, mais qui c'est ce mec, quoi? Il me pose des questions aussi. Ça, mais à part dit, c'est parce qu'on s'est déjà vu qu'il me répondait. Est-ce qu'il a besoin de me poser des questions aussi idiotes, le brave garçon, et dire qu'il est payé pour faire ça? Alors je leur disais, mais finalement, précisément parce que vous êtes déjà vu, qu'est-ce qui fait que vous vous reconnaissez? Et là, il commence à parler de la taille, de la couleur des yeux, des cheveux, etc. C'est-à-dire de la morphologie, en fait, du vocabulaire qui est approprié à ça. Et même avec des tout-petits, on peut parler de ça. Ah, on est passé au son, on est passé du bruit au son. Parce que du coup, si on commence à écouter la double signification des bruits, des sons, c'est-à-dire leur signification originelle et leur qualité sonore, il y a des rapports qui vont pouvoir commencer à se faire entre tous les sons. C'est-à-dire on va pouvoir en jouer en dehors de leur signification originale. Puis là, c'est gagné parce qu'on a une liberté de préhension du domaine sonore et de gagner. Mais ça ne se fait pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment un trajet initiatique. C'est quelque chose qui s'apprend. Et moi, j'ai introduit ça dans la pédagogie avec des enfants des écoles maternelles, des écoles primaires. Le fait de découvrir ça, qui ne nécessite pas forcément qu'on classe par cœur ça comme un solfège, mais c'est déjà un comportement, une attitude d'écoute. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Faire découvrir à un être humain qu'on peut écouter, qu'on peut avoir une écoute dite causale. Tiens, on a entendu les cloches tout à l'heure, au moment où commençait l'émission. Tiens, on entend les voitures qui passent, etc. D'abord, je les entends tout le temps, parce que je suis musicien. J'ai un peu moins l'écoute sélective, je la pratique quand je veux, mais plus librement. Mais aussi, j'écoute si un son est épais, s'il était mince, etc., etc. Parce que, vous voyez, moi, je suis passé du bruit au son. Mais ce n'est pas gagné tout le temps, même pour moi. Hein. Chaque fois que je travaille, j'ai l'impression d'accomplir ce trajet du bruit au son. Voilà, j'y dis beaucoup, là, hein, sur ce qui est pour moi déjà le son, c'est-à-dire cette double signification avec laquelle on joue et qui se repose beaucoup pour la musique concrète, bien sûr. Parce qu'en musique instrumentale, le travail a été fait par les autres. Hein. C'est le luthier qui a fait l'instrument, les codes sont déjà là, les échelles sont faites, etc. Et puis, je trouve que c'est un peu dommage qu'on éduque les gosses comme ça, parce qu'on leur demande d'aborder le son d'emblée, par l'exercice, par la répétition, par le mimétisme, sans même qu'ils aient l'occasion de se faire le trajet, quoi. Alors, si on a ces musiciens ou si on a un bon prof, on le fait en même temps, par le mimétisme, mais je pense qu'il faut un trajet légèrement plus conscient pour que la chose se passe plutôt bien.
Ce qui veut dire que dans ces cas-là, par définition, la musique électroacoustique est expérimentale.
Elle ramène d'emblée à cette signification originelle. Enfin, bon, je dis ça pour les auditeurs que je ne vois pas, qui sont en ligne, précisément en ligne actuellement, sur le site de l'INA GRM, groupe de recherche musicale, qui a fait suite au groupe de musique concrète que Pierre Schaeffer a fait. Je l'ai là sur CD, peut-être on l'écoutera tout à l'heure. Il y a en ligne, et puis je pense que vous donnerez les références sur la web radio, 12 émissions de Schaeffer. Il y en a 6 actuellement en ligne, qu'il a faites en 1959. Et où il s'est proposé de faire découvrir la musique concrète au plus large public. Comme ça. La première de ces émissions s'appelle « Retour aux sources ». Retour au bruit. Et il explique mieux que je ne peux le faire moi-même, ce qui est peut-être important à chaque époque historique, probablement, lorsqu'on a fait des hypothèses, qu'on a avancé, enfin, comme dans le courant occidental, hein, de revenir aux sources, c'est-à-dire l'être humain face au domaine sonore et au bruit, au sens très très large. Hein. Moi je me souviens d'avoir fait mes classes avec lui, il nous faisait écouter non seulement de la musique occidentale, mais on écoutait toutes sortes de musiques d'Afrique, d'Asie, des musiques savantes, de musiques de tradition populaire, un petit peu de sens de se décrasser l'oreille et d'ouvrir à toute forme, mais un peu poursuivre des trajets historiques différents, enfin de comprendre comment des êtres humains qui avaient le même système auditif, qui avaient aussi un souci culturel de jouer avec des sons comme tout le monde, eux avaient suivi leur propre trajet et de savoir ce qu'ils en avaient fait dans leur propre culture. Et j'ai trouvé ça très intéressant, précisément.
Justement, est-ce que c'est ça qui t'a beaucoup influencé pour une des pièces ou qui est, je ne me rappelle plus le titre, oui. Mais qui est...
Oui, qui s'appelle Chanson de geste.
Tu as là,
que j'ai amené.
Vous
voyez tout à l'heure, si vous voulez.
Ouais, oui, justement, c'est...
Ah, mais là, on est en musique. Excusez-moi, j'ai l'habitude de parler beaucoup, vous allez m'arrêter.
Non,
c'est qu'on peut faire des breaks. À partir de ce trajet du bruit au son... Effectivement, moi je me préoccupe de à ma façon, de faire un trajet plutôt singulier. Enfin, chaque compositeur fait le sien, du son à la musique. C'est là où ça devient. Je veux dire, dans mon trajet de communication d'enseignant, j'ai essayé, puisque l'enseignement n'était pas fait, et puisque j'enseigne dans le service public, je me suis sans arrêt posé la question de ce qui était commun et de ce qui était particulier ou singulier à tous les êtres humains. Alors, je vais aborder un terme plus large. Je redis en revenant aux sources que l'être humain est un peu chargé de son devenir. On fait partie de ces espèces où on a un peu le responsable. J'ai déjà posé la question, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas quel mot utiliser. Est-ce qu'on est responsable de nous-mêmes, de notre devenir, de notre progression Déjà, utiliser les termes, ça devient la morale, ça devient déjà des choix. Mais on fait partie de cette espèce où on a une conscience et où, quand même, il y a cette notion d'évolution ou de progrès qui vient en route. Hein. Et je pense qu'une des sources du progrès, c'est quand même de se préoccuper de ce qui est commun à tous les êtres humains. De faire porter, puisqu'on parle de conscience, de cultiver, moi ce qui m'intéresse en musique, pour parler des musiques que je vais faire, de bien distinguer. J'ai eu à le faire en étant prof, parce que précisément quand on a une culture classique qu'on fait de manière intuitive comme ça, par la répétition, à un moment donné, lorsqu'on enseigne, on dit « mais merde on ne pourra pas le couper au montage, celui-là ». Qu'est-ce qui fait que moi je comprends et qu'eux ils comprennent pas quand je leur parle? Et donc on est obligé de décomposer beaucoup, de trouver des termes, au moins pour communiquer. Voilà. Et donc voilà, déjà dans mon travail, pour revenir aux choses très très simples, le fait de se préoccuper de ce qui est commun, ce qu'ont fait les biologistes, les philosophes, etc., et de ce qui est singulier et particulier à chaque monde, est pour moi une dynamique et un moteur du progrès. Parce que si on distingue bien les deux, en soi, chacun des domaines, cultiver ce qui est commun, cultiver ce qui m'appartient à moi, c'est déjà dynamique en soi. Puis le rapport des deux, c'est fabuleux, parce qu'on permet de se faire avancer. Voilà, je crois que dans l'histoire de l'humanité, cette banalité que je viens de dire là fait partie de l'histoire. J'en viens aux arts. Et s'il n'y a pas de progrès en art en soi, je dis toujours que chaque nouvelle étape, chaque renouvellement est une façon de se poser la question de l'être humain, de la conscience de lui-même, de sa connaissance. Voilà, encore une autre banalité, mais enfin, il faut bien le dire pour que ça vienne à l'esprit. Et voilà, la musique concrète, elle, je pense, la musique électroacoustique, qui ne passe pas par l'écriture, qui ne passe pas par la représentation, le solfège, etc., est une façon qui, pour moi, représente une certaine évolution. C'est de renvoyer l'être humain à sa perception directement. Voilà, un domaine sonore très large. On n'a pas de moyen de le représenter, on n'a pas de moyen d'écriture, il se présente à l'oreille et on y est directement confronté. Et donc, grâce à des supports mémoire, qui étaient la bande magnétique, le tourne-disque au départ, l'ordinateur aujourd'hui, on a une relation en miroir que je trouve extraordinaire. On peut écouter les sons directement et se mettre à l'épreuve des rapports, des relations, avec quelque chose qui est là, présent, qui est très très général. Voilà une situation nouvelle qui, pour moi, représente, si ce n'est un progrès, du moins une situation très très nouvelle pour l'homme. Donc c'est pas une date en particulier, c'est très très annoncé par évidemment les technologies, l'histoire de l'art elle-même.
C'est lié avec l'histoire de peut-être aussi la radio, la naissance, oui. Hein, parce que l'électroacoustique est née dans le...
Alors
dans
la façon qu'il y a eu de se manifester pour les technologies, c'est souvent l'armée, puisqu'on veut communiquer à distance, etc. Et pour l'expression, c'est déjà un lien entre les moyens qu'il y avait, c'est-à-dire les lieux de communication, qui était la radiophonie, et en particulier avec la mémoire, qui était là, l'enregistrement, la reproduction des sons en temps différé. Et moi, il n'est pas étonnant que quelqu'un comme Cage, comme Schaeffer, etc., ait eu, en manipulant les sons, à la fois le sens de l'art dramatique, puisque l'art dramatique est né de la radio, et donc la radiophonie, et à la fois, puisqu'on manipule le son, à un moment donné, d'écouter ses qualités en particulier. Donc il n'est pas étonnant qu'en 1948, Schaeffer, avec ses études de bruit, grâce à une succession d'incidents, c'est-à-dire un disque rayé qui tourne sur lui-même, où on se met à écouter plutôt la texture du son, la qualité, le rythme que produit un sillon, un disque rayé. Il y a une chanson d'Edith Piaf là-dessus qui met en évidence justement le disque qui tourne comme ça. Et ça devient musique. Donc c'est pas étonnant qu'une telle situation, on s'occupe de décors sonores, d'acteurs, de musique d'accompagnement, mette évidemment en évidence les qualités sonores, les qualités de l'espace, etc., puisqu'il faut le fabriquer de toutes pièces. On n'a plus à prendre un événement existant d'ordre acoustique qui est enregistré un orchestre, enregistré une pièce de théâtre. De toute pièce, on fabrique des acteurs qui sont présents, qui sont proches du micro, avec des décors, etc., etc. Et évidemment, quel moyen il y a de autre que la dramatique radio pour conduire directement la musique concrète. Bien sûr. Parce qu'on est en situation expérimentale immédiate. Hein. Et donc ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, c'est que je ne suis pas très calé parce que je n'ai pas eu à me poser cette question comme ça, mais d'autres comme moi l'ont fait. C'est ce qui reste dans les musiques concrètes ou électroacoustiques aujourd'hui, qui prend ses origines dans la musique concrète, c'est-à-dire l'aspect dramatique qu'il peut y avoir dans certaines musiques qui existent encore aujourd'hui avec tous les sons.
Ça serait l'influence radiophonique, oui, sur les pièces.
C'est-à-dire de considérer ça un petit peu comme des acteurs ou qui ont des comportements.
Qui serait une relation quasiment la plus directe, quasiment.
Ben je pense, oui. Oui, oui.
Finalement, qu'on viendrait aussi du théâtre plus en arrière.
Oui. Ben, puisqu'on appelait ça la dramatique radiophonique. Hein. Vous savez, la dramatique radiophonique, enfin, dans les années, c'est pas si vieux que ça, la radio, et un petit peu avant-guerre et après-guerre, il fallait inventer l'expression radiophonique de toute pièce. Et donc pour la musique, on allait enregistrer des concerts et on les rejouait. Et pour le théâtre, à la radio, on allait enregistrer des acteurs au théâtre et on les rejouait. Et puis on voyait que ça passait pas. Et donc de là est né le 8e art, c'est-à-dire existe-t-il un art spécifique pour la radiophonie qui soit fondé sur les sons. Alors ça, personnellement, je suis un amoureux fou de la stéréophonie et de l'expression radiophonique qui tend beaucoup à disparaître aujourd'hui et auquel vous donnez-vous un regard un peu de renouveau, puisque...
Sauf que tu vas être déçu, c'est en mono.
En ligne. le son... Il y a une question intéressante, en fait, qu'on appelle d'un terme un peu barbare, acousmatique, et qui est une des choses intéressantes qui peut exister à la radio, et qui me fascine encore, moi, plus que la télévision en soi. C'est, je parlais de commun et de distinct. Il y a le fait que Pythagore, de manière dite acousmatique, enseignait derrière un rideau pour que seul le son arrive aux oreilles de ses étudiants ou de ses élèves. Ce que pose comme question la radiophonie et la musique, c'est une fois qu'on a dépouillé un événement enregistré de ce qu'il a produit visuellement, des comportements, des événements, etc., et qu'il ne reste que le son à entendre, alors il y a quelque chose qui s'adresse à l'oreille exclusivement, c'est-à-dire à un sens distingué du tout sens confondu, les yeux, etc., comme ça a bien lieu aujourd'hui. Alors ça m'intéresse, sans être pédant, je trouve que ça fait partie de l'histoire de l'humanité d'avoir pour des arts distingué le sens qu'est l'oreille, pour donner un sens au domaine sonore qui nous entoure, et de se donner un sens à soi-même. Pour les yeux, pareil. Pour l'espace, pareil, etc. Je crois que les arts fondamentaux sont nés en relation avec la distinction de sens particulier. C'est un point d'origine, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que tout sens confondu, comme on le fait là, sans langage châtié, ou tous les jours, où on y va de tous les sens, à un moment très privilégié, les êtres humains se soient occupés de distinguer un sens dans tous les sens du terme. C'est-à-dire un sens, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Un sens qui est l'audition, l'autre la vue, etc., du sens qu'on donne à la vie. Et là, avec la bande magnétique, l'enregistrement, la radiophonie, c'est qu'est-ce qui reste comme sens une fois qu'il est dépouillé de ce qui a donné, de sa causalité, de ce qui a donné naissance là-dedans. Voilà un thème qui est quand même assez riche, assez important, et auquel vous vous confrontez vous-même, puisque vous vous intéressez, alors non pas en stéréophonie, mais en monophonie, de le mettre en ligne. C'est une belle question, hein. Qu'est-ce qui reste 10 ans après, lorsqu'un enregistrement a été fait, comme sens important, de ce qu'on écoute exclusivement?
Il prend des statuts différents. Le but du jeu aussi, c'est de la capacité à un médium de se diffuser sous différents statuts. Là, on a un direct, on a une transmission mono, on a un archivage stéréophonique. À un moment, il faut aussi... Je ne sais pas ce que tu en penses, justement, oui, de cette capacité aussi, à un moment. Alors peut-être que dans ta pratique, tu pourrais nous en parler aussi, par rapport à la notion de diffusion, par rapport à la notion d'appréhension.
Juste un petit exemple où j'ai été assistant radio. On va écouter l'émission de Pierre Schaeffer, au moins 3 minutes, pour plusieurs raisons. D'abord, il parle du retour aux sources et du bruit. D'autre part, c'est une radiophonie qui date de la fin des années 50, qui peut paraître un peu fatigante pour certains, puisque c'est écrit en termes très littéraires. À cette époque, on écoutait le son avec beaucoup d'attention, puisque la télé existait à peine. En tout cas, on écoutait beaucoup en termes très écrits. En plus, bon, il y a des conventions où il joue le rôle de maître, il appelle une fille pour jouer le rôle d'élève qui lui pose des questions. Donc aujourd'hui, la forme peut paraître très très désuète, effectivement, hein. Mais le son dépouillé de la vue à l'époque était surtout perçu pour sa valeur littéraire, et à l'écriture. Et littéraire, parce que moi-même, j'ai été assistant radio lorsque j'étais étudiant, et je me souviens que pour ça, on nous faisait enlever les bruits, pour en revenir au terme. C'est-à-dire tout bégaiement, tout petit bruit de salive, tout petit bruit de souffle, etc. Je me souviens qu'il était de bon ton de le couper, de l'enlever. Considéré comme bruit dépouillé du sens privilégié qui était donné à écouter. Alors aujourd'hui, ça paraîtrait franchement stupide et idiot. Les temps ont bien changé. Mais je me suis posé la question, je me dis que simplement, on sublimait déjà le son pour sa valeur de représentation écrite, quoi. Et que du coup, tout ce qui était, tout ce qui renvoyait à la valeur physique, c'est-à-dire le bruit de la respiration, les bégaiements, les petits bruits de bouche, etc., n'appartenant pas à ce sublime, était enlevé systématiquement des émissions. Donc à l'époque, on était très attaché à la représentation très, au sens spirituel, au côté intellectuel de la représentation littéraire de ça. Voilà ce que ça me dit. Bon, on a beaucoup parlé, vous voulez qu'on écoute des choses ouais, faut que je retrouve, mais il faut qu'on prenne un peu de temps. Je pense que
peut-être
ça va pas couper le...
Retour aux sources, ou tu veux commencer Oui.
Le Schaeffer, peut-être qu'il faudrait vous épargner le début de l'émission, qui est une présentation de la série. Alors, peut-être pour les auditeurs, il y a une série de 12 émissions faites en 59 qui s'appelle l'expérience musicale. La première s'appelle La musique et le bruit, ou Le retour aux sources. Elle fait 20 minutes. Ce que j'aimerais, c'est qu'on cale à partir de 3:30. Si tu veux bien le faire, pendant ce temps, je présente. Donc, il y a Schaeffer lui-même. Alors, la situation est historique, est intéressante, parce qu'il s'adresse au public, à un public non averti de gens qui ne connaissent pas la musique concrète. Lui est très intello, hein, il est polytechnicien, il est littéraire, il a fait des pièces de théâtre, il vient de découvrir la musique concrète. Et donc vous allez entendre le style de l'époque où il a quasiment, on voit très bien qu'il a écrit toutes les missions, qu'il a choisi une personne qui est un faire-valoir, qui joue de la relation maître-élève, qui peut un peu agacer aujourd'hui, mais n'empêche que les questions fondamentales qui se posent pendant ces séries de 12 émissions, si on va un peu au-delà des apparences, me paraît quand même très très important. Voilà, je saute le début qui est un peu pénible, et au bout d'un instant, son interlocutrice lui dit « Mais s'il y avait une seule chose importante que vous retiendrez de 10 ans de travail sur la musique concrète, qu'est-ce qui serait important pour vous ?» Voilà, on va écouter 3-4 minutes si vous voulez.